Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 18e numéro de Just for Games, le podcast. Alors bien sûr, si vous connaissez un peu le rituel de l'émission, vous le savez, je ne suis pas seul pour animer cette émission, mais accompagné du vénérable, du daron, de l'ancien, celui qui a créé l'univers, la Terre, vous le voyez par ses cheveux, TMDJC, bonjour.
Bonjour tout le monde, bonjour Terry, comment vas-tu ?
Bah écoute, je vais très très bien, et toi ?
Eh ben moi ça va très très bien, je reviens de plein de trucs, j'ai bougé dans tous les sens, etc. Puis, comme d'habitude, on a un programme ultra chargé avec plein de trucs qu'on a envie de présenter, donc oui, je vais bien. En plus, on sort d'un warm-up, on a le droit de dire qu'il y a un warm-up avant, hein, parce que là, vous nous écoutez en podcast, vous nous regardez éventuellement sur YouTube,
mais
il faut savoir que voilà, si vous êtes sur Twitch... on a un petit warm-up avant où on parle avec le chat et puis on se rejoint après. Donc si vous êtes disponible tous les premiers samedis du mois, on est là, n'hésitez pas à venir. En plus c'est en clair.
En clair, c'est pas en... Ah, attention, peut-être qu'un de ces quatre va y avoir une boutade en... TMDJC, le sommaire de ce mois-ci, c'est quoi ?
Ah bah écoute, alors bah, je suis très content que tu me poses la question parce que là il y a du lourd, parce qu'on va commencer avec le focus où tu parleras de Ivan Hades, je vous parlerai de Broforce, on aura l'interview du mois où on reçoit ce mois-ci Florent Gorge, le vrai, on aura les sorties du mois, le code promo du mois, on parle de la version collector où il y aura la MVS Mini, on aura le vinyle où je vous parlerai de Secret of Mana, mais pas n'importe laquelle des éditions, on en reparlera après. Pour la recommandation, je vous parlerai de Ender's Lilies, et puis on terminera avec coup de cœur venu d'ailleurs. Là, c'est Mario versus Donkey Kong dont tu nous parles, si je dis pas de bêtises.
Exactement.
Mais, par contre, avant, je crois qu'on a les news.
Toi aussi, tu kiffes les Tortues Ninja. Alors, cette news est pour toi, puisqu'elles reviennent dans un nouveau jeu appelé les Tortues Ninja, les mutants se déchaînent. Le jeu est la suite du dernier film d'animation sorti l'été dernier au cinéma. C'est un jeu de combat platformer 3D. On va incarner l'une des quatre tortues et partir à l'aventure. Avec une direction artistique de ouf, sortie prévue en version boîte, bien évidemment, tu connais, c'est normal, ça, on est chez Maximum Entertainment, sur Switch, PS4, PS5, Xbox One et Series X, fin 2024.
La Terre est malade et nous sommes la maladie. C'est vrai ça, on est un petit peu le virus, c'est déjà un laïus qu'on a entendu un petit peu partout. Tout espoir repose maintenant sur Gaïa, un être puissant né du dernier souffle de Mère Nature. Utiliser ses capacités pour modifier l'environnement, échapper aux créatures dangereuses, résoudre des énigmes complexes et survivre dans ce monde mourant. One Last Breath, ce plateforme action d'énigmes à la troisième personne sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 dès le 28 juin 2024.
Fan de Metroidvania, Cross Soul Likes, Cross Castlevania Symphony of the Night, j'ai le jeu qu'il vous faut avec The Last Face qui arrive en version physique sur Switch, PS5, Xbox One et Series X en édition standard et en édition, alors, Nicrux Collector. On va faire simple, en gros, c'est collector. Pour rappel, il est en 2D de fou, vous incarnez Eric et allez arpenter le monde dévasté de The Last Face pour tenter de survivre à une quête maudite. Le tout dans une ambiance gothique de fou, sortie prévue le 5 juillet, pile poil le jour de mon anniversaire.
Si je vous dis que les Razmoquettes sont de retour dans un jeu vidéo, vous allez faire la même tête que moi quand je l'ai appris. Alors ça, c'est beaucoup très visuel en français dans le texte,
ouais,
si jamais t'écoutes le podcast. Mais si je vous dis que le pitch, c'est que les bébés de Nickelodeon voient une publicité pour un nouveau jeu vidéo et qu'ils font comme s'ils étaient à l'intérieur de ce dit jeu, avec une DA complètement dingue, entre de superbes illustrations 8 bits et les graphismes HD de l'animé, eh ben vous aurez forcément envie d'incarner votre bébé préféré et d'y jouer en solo ou en coopération. Razmoquette ou Rugats en VO, Adventure in Gameland, le jeu de plateforme néo Rétro sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch et PlayStation 5 dès le 16 août 2024.
Voilà, c'était quelques petites news. Hein. Évidemment, on ne peut pas parler de tout. On en a que d'autres, quelques-unes en vrac, TMDJC.
Ouais, ouais. Il y a notamment, parce qu'on parlait des Tortues Ninja.
C'est vrai, il y a une anecdote là-dessus, oui.
Ouais, mais non, vas-y.
Non, vas-y. C'est toi, puisque c'est toi qui l'as su.
Le jeu, il s'appelle vraiment Tortue
deux
Ninja.
Deux gosses.
Il s'appelle vraiment Tortue Ninja. C'est pas Teenage Mutant Turtle, etc., avec de TMNT. Je veux dire, et il est en français.
C'est le chef.
Ben oui, c'est le chef qui nous l'a dit. Ben nous, on est. C'est le chef. Et du coup, pourquoi on parle de c'est le chef ? Parce que c'est lui qui a réglissé un petit truc pour dire, dis donc, ce serait pas mal que le jeu s'appelle Tortue Ninja, parce que nous, en français, on dit Tortue Ninja. Donc
voilà.
Donc bravo Thibaut.
Exactement. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur Citizen Sleeper qui arrive en boîte, hein, c'est ça ?
Oui, il arrive en boîte et ce, le 19 juillet.
Très bien. C'est un. Donc le contenu de l'édition physique a l'air cool et sort. Non, pas le 19 juillet, 28 juin.
28 juin, t'es sûr ? Ah ben je te fais confiance.
C'est marqué 28 juin.
Non, mais on parle duquel
Citizen Sleeper.
Pardon, j'étais sur
le jeu de rôle papier, n'est-ce pas? Voilà,
c'est... Mais oui, mais c'est toi qui as raison.
Ça
on
y
le
est.
Dit. Mais le 28 juin.
On a fait
juin,
notre bon avis.
Voilà, on
c'est
a bon
avis. Bon, c'est ça qui fait plaisir.
Mais oui.
On a Stanley Parable Ultra qui, Deluxe.
Qui lui sort le 19 juillet.
T'es sûr?
Ah bah, là, c'est marqué en rouge.
En version physique. Voilà, ça fait plaisir sur Switch et PS5. À noter que 20%, ouais. Et ça, c'est bien par contre.
Que le 20% des bénéfices issus des ventes seront intégralement reversés à une ONG.
350 orgues pour la préservation de l'environnement. Mais on en reparlera, bien sûr, ouais. Bien plus tard. On a également, bon alors là, c'est un jeu, c'est pas trop pour TMDJC, je vais pas vous mentir.
Oh là là, c'est reparti.
Une version physique sur Switch hein, d'une licence culte japonaise, Corpse Partie 2, Darkness Distortion. Automne 2024,
si jamais,
mais c'est pas pour TMDJC.
Si jamais
vous
il
n'est
pas en first person, je me charge de faire ce jeu.
Ce jeu fait peur, c'est pas pour lui.
Et après Bonaldi, on va retrouver notre ami Terry qui va nous parler de Have a Nice Death.
Belle transition. Alors, faut rebondir derrière Bonaldi derrière. Moi aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, cher TMDJC, je vais vous parler de Have a Nice Death. C'est un roguelite développé par Magic Design Studio et c'est un studio français. Donc déjà, bah, ça fait cocorico, ça fait très plaisir. Sorti en version physique sur Switch et c'est de cette version que je vais vous parler aujourd'hui. Donc je l'ai dit, c'est un roguelite en 2D et tout en noir et blanc avec un petit peu de couleur de temps en temps de ci de là. Mélange avec du plateforme action et c'est de toute beauté, ça dégage une ambiance folle. Le pitch, on va incarner la mort. Oui, je sais, dit comme ça, ça peut faire peur, mais pas de panique TMDJC, le jeu ne fait pas peur. Donc, on va incarner la mort et on est à la tête d'une entreprise florissante. Donc jusque-là, bah, tout va bien, hein, la vie est belle, c'est cool. Sauf qu'on va se rendre compte, que notre personnel ne fout plus grand-chose. Et donc là, bah, évidemment, il faut qu'on remette de l'ordre. On va botter le cul de tout notre personnel, tout en évitant le burn-out. En bref, de mourir. Le gameplay, après un rapide tuto qui nous explique que notre héros a un saut, un dash, une attaque simple ou chargée à la faux, ou encore en mettant notre stick vers le bas pour avoir une attaque qui varie, une attaque ultime quand la jauge de charge est chargée, et enfin deux attaques supplémentaires qui consomment la barre de mana qui se remplit avec le temps. On pourra tout améliorer, que ce soit sa barre de vie, de mana, les armes, durant notre run. Puis, on part à l'aventure. Durant notre aventure, on va parcourir les niveaux et par moments, on se retrouvera enfermé dans une arène où on devra combattre un certain nombre d'adversaires, ce qui nous donnera des récompenses pour ensuite continuer. Et autant au début, c'est facile, mais après, tu transpires, hein, on va pas se mentir. Hein. On va parcourir plusieurs niveaux avant d'arriver au boss et à chaque fin de niveau, on prend l'ascenseur. Avec sa petite musique d'attente que j'adore. Tiens, d'ailleurs, on l'entend, on le voit si vous êtes avec nous en live sur Twitch. Voilà. Écoute.
J'adore.
C'est un petit peu ce petit moment de répit avant de donner la mort, quoi. Tu sais, avant de retourner, d'éclater tout le monde, tout ce personnel qui fout rien.
Je suppose que c'est là où ça génère, du coup, le nouvel étage.
Exactement, ouais. C'est là où tu vas choisir ton étage. D'ailleurs, au moment où tu prends l'ascenseur, on aura le choix entre plusieurs niveaux et avec à chaque fois une récompense au bout, que ce soit des armes, des âmes, etc. Un peu à la manière de Hades. On a aussi des salles secrètes de temps en temps, mais c'est pas toujours, c'est toujours de manière aléatoire, pardonnez-moi. Après, je vais pas vous mentir, c'est notre modérateur préféré, Yeye et homme de l'ombre de la chaîne, qui me l'a dit. Moi, je suis jamais tombé dessus. Et puis, d'après Yeye, c'est pas évident à trouver, tu sais, c'est un petit cadenas qui est dans un coin du mur, il faut taper dessus. Moi, vu que je passe comme un bourrin, bah, je suis toujours passé à côté, donc voilà, tout va bien. Arrêtons-nous un instant sur les boss, ils sont juste superbes, leur design est magnifique, il faut bien comprendre leur pattern, et ensuite, et autant au début, ils sont simples, hein, tout va bien, mais ça va se corser assez vite. Les dialogues, lorsqu'on les rencontre, à chaque run, ils changent, mais c'est à mourir de rire. Les dialogues dans le jeu sont vraiment une part importante du jeu. Mais il n'y a pas que les. Et il y a également les boss, pardonnez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Tout comme les ennemis, tu sais quand ils vont t'attaquer ou quand ils t'ont repéré ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont une mimique, il y a quelque chose de visuel sur eux qui t'avertit pour te préparer à faire l'esquive avec le dash et ainsi de suite. Au fil de l'aventure, on va récupérer des lingots d'or hein, qui nous permettront d'améliorer l'armement de notre héros lors de son passage dans le hub. On va également trouver des améliorations dans les niveaux, mais de façon aléatoire, qui vont être plus ou moins importantes et des fois, ils vont engendrer des malus. Donc attention à bien réfléchir avant de les prendre. Tiens, ça c'est Brad, le premier boss, l'agent de sécurité. Roguelite oblige, à chaque mort, on repart à zéro, ou presque, hein, puisqu'on va garder, les armes qu'on a débloquées, bien sûr, mais on démarre avec notre faux de base. Et ensuite, on va les trouver de manière aléatoire dans les niveaux, hein. Comme d'habitude, c'est le principe. En revanche, on va garder et surtout notre or, ce qui nous permettra d'acheter des armes avec un système de réduction plus ou moins importante si on remplit certaines conditions, comme par exemple avoir tué un certain nombre d'ennemis, de boss, etc. On pourra ensuite les récupérer durant l'aventure. Et franchement, on en aura bien besoin. Car on va pas se mentir, mais le jeu est chaud, très chaud, pas forcément dans sa difficulté, et encore que, mais plutôt pour le manque de vie. Il faut vraiment éviter au maximum de se faire toucher, car après, il faut attendre des fois longtemps, vu que c'est aléatoire, avant de récupérer des petites billes de potions qui vont nous redonner de la vie. On pourra stocker jusqu'à 3 billes de potions, ce qui est peu, et ça, il faut reconnaître que ça corse vraiment le jeu. En plus, il y a deux types de pertes de vie. On a notre barre de vie qui peut diminuer, et on peut la remplir avec des billes de potions. Bon, jusque-là, tout va bien. Mais on a aussi notre barre de vie qui diminue de manière définitive. Et là, c'est vraiment embêtant, car pour la récupérer, c'est plus compliqué. Alors, ça se fait, hein, mais c'est plus compliqué. Après, il y a un mode de difficulté que tu choisis au début du run, et si tu prends en facile, eh bien, tu peux avoir des bonus supplémentaires en démarrant ton run, ce qui est très appréciable. Comme tout roguelite, eh bien, durant votre run, c'est de l'aléatoire au niveau des armes, des bonus, etc. Donc, c'est vraiment toi et ta chance. Et clairement, quand tu tombes sur une bonne arme ou un bon bonus, bah, ça aide hein, pour faire le run. Hein, mais ça reste dur malgré tout.
Et puis, ça doit t'énerver justement quand tu te viandes en disant « Zut, j'avais une super arme ».
Exactement. Les PNJ, les décors, les boss, tout dégage une ambiance de dingue. C'est magnifique. L'ambiance sonore aussi est magique, vous pouvez l'entendre. Les dialogues sont drôles. C'est une vraie réussite. Notre héros répond super bien, les phases de plateforme sont au poil. On dispose d'une carte qui va être bien pratique hein, pour s'y retrouver, surtout pour moi, vous le savez, mon orientation en carton. Conclusion, Have a Nice Death est super nerveux, magnifique, le héros réagit au quart de tour, mais attention à sa difficulté qui peut en rebuter plus d'un. Mais ça reste toujours accessible globalement. Point positif, les graphismes, hein, les animations sont dingues, tout comme l'ambiance du jeu, un grand nombre d'armes, il y en aura pour tout le monde, un jeu ultra nerveux, la mort répond au doigt et à la faux, j'adore le design des PNJ, les décors, les boss. Les dialogues sont drôles, je l'ai dit, le mode facile est bienvenu parfois, qui va nous permettre, pardonnez-moi, de parcourir le jeu et d'aller un peu plus loin qu'en mode normal, parce que ça pique. Le point négatif, le jeu ne donne pas beaucoup de vie durant la partie, donc attention à bien gérer ça. Et je suis obligé de mentionner que dans le hub central du jeu, il y a un bug qui fait que tu ne peux plus rien faire. Dans ces cas-là, tu es obligé de rebooter le jeu. Alors, pas de panique, ce n'est pas quand tu es en pleine game, c'est quand tu repars de zéro. Donc, bon, bah, tu rebootes le jeu, et puis voilà. C'est un bug qui est connu, le chef Thibault me l'a dit, donc il y a un espoir qu'il y aura une mage prochainement pour corriger le tir.
Eh ben,
cher Thibault.
Non, c'est l'autre, Thibault, c'est l'autre. Donc, Amanades, très très bien. Alors moi, de toute façon, c'est déjà un jeu que j'avais envie de faire, et donc
avec une petite cover alternative
à l'intérieur.
Et toute
choupi. Moi, j'ai quand même une remarque. Oui. Il y a plein de moments, l'animation me fait penser ce jeu absolument magnifique et Cuphead.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a vraiment le côté très fluide des anciennes animations américaines qui là me parle. Les quelques morceaux de musique que j'ai entendus, pareil, m'ont beaucoup parlé. Mais t'as répondu à la question que j'allais poser par rapport à la difficulté.
J'aime ça.
Le jeu, c'est pas qu'il a l'air ultra difficile, c'est qu'en fait c'est plutôt la difficulté en fait de garder ta vie qui vraiment peut te ralentir dans ton évolution.
Voilà, on me dit dans le chat, il y a notre modérateur préféré, Homme de l'Ombre, nous dit le perso fait penser à la petite mort de David Mourier. Complètement
oui,
ça.
Très très bonne remarque, Yé.
Complètement ça. Bah, en fait, le souci il est dans la vie que tu récupères pas des masses.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et très aléatoirement, et ta barre en fait, c'est ta barre elle est pleine et au début, des fois, tu te fais toucher. Ta barre, elle va diminuer un peu, mais elle est grisée, donc tu sens que dès que tu récupères une bille de vie, tu peux la reprendre. Ou si tu as une bille de vie en stock, tu remplis ta barre de vie, pas de problème. Et il y a des fois, ta barre de vie, elle disparaît, mais elle se réduit. Et du coup, la partie manquante n'est plus grisée, elle n'existe plus. Et là, si tu as une bille jaune, eh ben, la bille jaune ne te redonne pas
la partie qui est
manquante.
Que, ouais, c'est ta barre bleue en elle-même.
Il faut une bille bleue, mais les billes bleues, tu les as pas tout le temps. Des fois, tu vas avoir que des billes bleues. Bon, bah alors là, du coup, tant mieux, parce que ça redonne toute ta vie, quelle que soit la bille. Mais des fois, tu as que des billes jaunes. Et tu veux récupérer une autre bille de vie au sol, et tu ne sais pas si elle est bleue ou jaune. Donc, tu tentes ta chance.
La difficulté vient vraiment, en fait, de la préservation de ta vie.
À mon sens, c'est un bon 60%.
D'accord, ok. En tout cas, le jeu me fait vraiment, vraiment de l'œil et ouais, il est pas impossible que je cède à l'appel de Have a Night Death.
Exactement. Alors là, on part visiblement dans l'armée, c'est ça, cher TMJC?
Oui, mais pas n'importe où dans l'armée.
Nous allons partir dans l'armée de Broforce. Imaginez un monde où les muscles saillants et les explosions sont le quotidien, où la liberté n'est plus qu'un idéal. Une mission. Bienvenue dans l'univers déjanté de Broforce. Dans ce jeu, vous incarnez une équipe de bros surstéroïdés, inspirés de héros d'action des jeux des années 80 et 90. Chaque personnage est une parodie musclée des figures emblématiques du cinéma comme Rambo, Bromando, Mike Brover, Bro Dead, Bro in Black, Brominator, Robocop, Indiana Jones. Je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a tellement, mais je les adore. Puis en plus, comme on est sur la version Broforce Forever, vous avez le droit en plus à Xenobro, Dailymotion Bro, Bird Bromer, Seth Brundle, Brofi contre les vampires et Prosperadro. Non, enfin, ce jeu est absolument dingue. Ils partent en guerre contre le mal, dans un style qui ne manque pas d'humour et de références culturelles. Et comme nous sommes là tous ensemble pour parler de ce jeu fantastique, il faut aussi préciser que les niveaux sont aussi subtils qu'un coup de pied dans les... Vous détruisez tout sur votre passage, avec une panoplie d'armes aussi grosses les unes que les autres. Les ennemis, des terroristes, des aliens, des démons, on s'en bat les... Rien à carrer. C'est ça, c'est la routine de nos héros, c'est le petit déjeuner. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la coopération avec vos amis qui se transforme souvent en joyeux chaos, où l'on peine à distinguer amis ou ennemis, dans un milieu où des explosions, attention, les armes qui se conjuguent difficilement si on bourrine, oui. Broforce, c'est l'essence même de l'exagération, un hommage satirique au film d'action qui ne se prend jamais au sérieux. C'est un feu d'artifice permanent où chaque mission accomplie vous fait vous sentir comme vous étiez en train de sauver le monde jusqu'à la prochaine mission. Évidemment. Alors, prêt à rejoindre les rangs, à libérer le monde à grands coups de dans les... Mais oui, mais c'est Broforce, les gens. Eh oui, on n'est pas là pour jouer. Non, on est dans Broforce. Alors, j'ai quand même envie de rajouter 2-3 bricoles quand même sur ce jeu qui, je ne vous le cacherai pas, m'a complètement retourné le cerveau. Parce que Broforce, je l'ai fait plein de fois. Je l'ai fait sur plein de supports différents. Et parce que j'adore ce jeu. Parce que oui, dans Broforce, ce n'est pas juste la Broforce en elle-même, avec des personnages qui à chaque fois ont un gameplay différent. C'est à chaque fois un jeu qui se réinvente. Un jeu qui se réinvente quand vous jouez tout seul, mais quand vous jouez à plusieurs. C'est un jeu en fait qui est différent à chaque action, parce que vous apprenez les patterns de chacun des ennemis, parce que vous apprenez à jouer correctement avec chaque personnage qui vont vous proposer à chaque fois un gameplay radicalement différent. Que des points positifs, à peu de choses près, parce que oui, dans les points positifs, c'est un gameplay simplissime mais varié, des environnements ultra réactifs et entièrement destructibles, encourageant le jeu tactique, plein de personnages différents à jouer et chacun avec ses propres avantages, inconvénients et gameplay. Le jeu à plusieurs est encore plus fun, c'est l'arcade, c'est l'addiction et c'est sans fin. Allez, bon, je vous mets quand même 2 petits points négatifs histoire de, parce que je suis de bonne humeur. On meurt souvent et ça peut être frustrant, oui, c'est vrai, mais t'as qu'à bien jouer, hein, c'est de ta faute. On est dans Broforce ou quoi ? Certaines missions peuvent sembler un peu plates. Oui, c'est vrai qu'il y a certains moments, tu roules sur le jeu et tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu as trouvé la bonne catégorie au bon moment avec le bon personnage. Mais comme il y a un côté aléatoire, eh ben c'est pas tout le temps. Donc à chaque fois, ça se réinvente. Et je le disais, le point négatif, c'est que le jeu à plusieurs est quand même foutrement dingue. Et que des fois, t'as envie d'avoir des copains, rien que pour ça. Et si, comme pour moi, tu n'as pas d'amis, tu es obligé d'aller dans la rue, enchaîner des gens de force pour les faire jouer à Broforce. Et je le rappelle, c'est illégal. Attention, les gens, il faut pas faire ça.
Excuse-moi, j'ai lu dans le chat de Yéyé qui disait « Bro, TMDJC avec les lunettes de soleil. » Tu les as pas mis, ces lunettes. Ça aurait mérité. Ah oui. Très belle chronique de toi.
Je suis Brogy-C.
Brogy-C. Et tu fais mal, du coup ?
Oui, parce que je tape avec ma...
C'est le bro bordel, dit on nous dit dans le chat. C'est effectivement bon. Est-ce qu'il faut revenir dessus, ce jeu? Oui, tu peux présenter quand même.
Oui,
effectivement,
parce que
la boîte.
Quand même. Bon, déjà, il y a une jolie boîte, mais c'est une version collector.
Surtout que maintenant, on a les cams inversées, ouais, donc on peut le présenter autant
que
faire.
On a les cams inversées avec plein de trucs. Rapidement,
alors,
parce
rapide,
que je sais
hein,
qu'on
c'est
est
pas
on
le,
est voilà.
Là.
On est pressé par le temps, mais évidemment, le jeu avec le jeu dedans. Il y a un joli comics avec les personnages qui sont indiqués à l'intérieur. Ça, j'aime beaucoup. On a très important
l'OST.
Mais oui, vous savez.
Pour les gens,
vous savez
qui sont en podcast. Hein.
Mais vous savez que moi, j'aime beaucoup les musiques de jeux vidéo. J'adore Broforce. Non, sérieusement, ce jeu, je le surkiffe. C'est un jeu qui n'a pas de fin. C'est un jeu, alors je le disais, qui est vraiment très très fun à plusieurs. Mais moi, j'ai joué beaucoup tout seul dernièrement pour préparer le jeu. Il y a plein de moments où tu vas vraiment, même sur certains patterns de certains ennemis, tu as l'impression que ça va. Et puis tout d'un coup, tu vas trouver l'ennemi qui te défonce sa tronche, notamment le boss de fin, petite dédicace à Yéyé, nous sommes d'accord là-dessus, Satan, c'est quand même pas le perso le plus facile à buter, quel que soit le jeu vidéo. Et puis je parlais de Broforce Forever, moi c'était la première fois que je jouais à cette version du jeu parce que j'avais fait les précédentes versions, et t'as des personnages comme Brophy ou comme Seth Brolf, je sais plus, enfin la mouche quoi, grosso modo, où tu vomis de l'acide sur les gens. Ce gameplay, il est génial, et quand tu joues à plusieurs, il y a des moments où tu ne sais pas quel personnage tu vas avoir, et il y a des combinaisons qui s'enchaînent super bien. Ouais, c'est totalement. Oui, je l'ai pas précisé. T'as des tableaux où tu n'as pas le choix, où c'est vraiment fait pour certains personnages, mais t'as des tableaux, c'est totalement aléatoire. Mais il y a des mélanges. Quand t'as un personnage qui tire par le haut et qu'il y en a un autre qui tire au centre, bah t'arrives à faire des combinaisons de malades. Et des fois, t'as deux personnages qui bourrinent de ouf, qui explosent tout, et t'arrives plus à avancer tellement tu t'es niqué le sol, parce que tu peux quasiment tout détruire dans ce jeu. J'adore Broforce. Jouer à Broforce, Broforce Forever. Je sais pas si t'as des questions, toi, d'ailleurs.
Bah là, je crois que tout est dit, là. J'ai même vu passer, c'est le Bro Collector. C'est pas un jeu standard, c'est un Bro Collector, le jeu.
c'est un Bro Collector.
Est-ce que tu peux faire le continuer l'émission avec cette voix-là?
Je peux essayer.
Ce mois-ci, on reçoit Florent Gorge. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît?
Bonjour messieurs, alors effectivement je m'appelle Florent Gorge et je suis traducteur, interprète japonais-français, éditeur de livres sur la pop culture, les jeux vidéo, le manga, avec la boîte que j'ai fondée qui s'appelle Omake Books, et puis je fais plein d'autres trucs, de l'interprétariat, j'ai une petite chaîne YouTube, enfin je fais pas mal de choses, ouais.
Oui, on t'a vu dans plein de domaines différents, mais alors toi qui parles énormément de jeux vidéo, est-ce que tu peux nous raconter comment s'est passée ta découverte du jeu vidéo ?
Wow. Alors, j'ai toujours l'impression d'avoir grandi à côté de jeux vidéo. Moi, j'habitais dans une ville qui s'appelle Dijon. Il y avait une salle d'arcade juste en face de là où j'habitais, une grande, grande salle. Donc, les quelques fois où on partait en vacances quelque part, il y avait toujours un endroit où il y avait des bornes. Moi, mes parents bossaient dans un hôtel, donc dans le bar, il y avait aussi, j'ai souvenir d'une borne cocktail avec un Pac-Man. Donc j'ai plein de souvenirs, mais je saurais pas te dire à quand ça remontait. Par contre, mon premier contact avec une console, c'était pour, je sais pas, je devais avoir 5 ans, 6 ans. Je rentrais d'un entraînement de foot dans mon village là, et puis il y a un copain qui me dit: ah Noël, j'ai eu un ordinateur. Et je fais: cool, un ordinateur, viens, on va y jouer. Et puis c'était une Atari 2600. Et à l'époque, on appelait ça un ordinateur de jeu. Voilà.
Et bah du coup, la question suivante, c'était quelle a été ta première console à toi?
Alors, je parlerai pas de console, mais ma première machine, on va dire, assimilable jeu vidéo, entre guillemets, c'est un Game & Watch, et c'était pour mon anniversaire des 5 ans, donc un 21 mars 1984, comme quoi je m'en souviens, mais en même temps c'est facile, c'est un anniversaire, et c'était un Game & Watch, donc c'était Parachute, voilà.
Et ah, puis après, tu sais que c'est mon premier Game & Watch aussi.
Parachute, c'était un des grands, grands classiques du marché français, oui, ça c'est vrai. Et puis après, qu'est-ce que j'ai eu? Après, avec mon frère et ma sœur, on s'est acheté la NES fin des années 80. Je saurais plus exactement si c'est 88 ou 89. Je pense que c'est plutôt 88. Voilà, on s'était payé un action set avec la double cartouche Mario Duck Hunt. Oh. On avait claqué 990 francs, je crois. Si mes souvenirs sont bons, voilà.
Alors toi, en tant que joueur, c'est quoi ton profil? Sous-entendu, en fait, t'es quel type de joueur? C'est quoi ton gameplay?
Moi, je suis beaucoup plus TPS, donc action, un peu à la God of War, à la Prince of Persia, du moins quand c'est Sons of Time ou ce genre de choses. J'aime énormément les jeux d'aventure à la Zelda, donc voilà, du TPS, action, aventure, un peu bourrin. C'est mon style de jeu. Sinon, j'aime énormément les Metroidvania, mais là, pour le coup, ça sera soit Metroid, soit Castlevania. Il y en a beaucoup d'autres, hein, en fait, mais pour le moment, c'est les deux grosses séries qui me font accrocher. Et puis, j'aime bien les puzzle games. J'aime beaucoup les, comment on appelle ça, les Picross, ce genre de choses. Oui. Alors là, tu vas me dire, on n'est pas obligé d'être sur un écran pour le faire, c'est vrai. Mais j'aime bien les Picross et les jeux de... Et les puzzle games d'une manière générale. Je joue très peu. J'adore les shoots aussi. Plutôt, moi, je suis plutôt joueur Dame Maku, même si je suis pas très bon, j'adore ça.
Si on revient un petit peu sur ton parcours professionnel, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'origine, t'étais pas forcément destiné pour ça, mais plutôt pour une carrière dans le sport, non?
Oui, alors après, qui est destiné à gagner sa vie avec le jeu vidéo? Bon, aujourd'hui peut-être, mais à l'époque, quand j'ai commencé, effectivement, je crois que personne ne gagnait vraiment, à part les développeurs, mais sinon, et puis quelques journalistes. Mais sinon, oui, moi à la base, je voulais être basketteur, voilà. Donc, je fais 1m75, hein, je suis un chibi, mais donc j'ai une petite carrière de basketteur amateur, sympa quoi. Et puis malheureusement, la taille et puis la motivation ont fait que j'ai stoppé ma carrière et je suis parti au Japon assez tôt. Ouais.
Puis en 2007, t'as créé Pix & Love avec Sébastien. Comment c'est arrivé ça?
Alors, c'est arrivé en fait à la suite du décès d'un magazine que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Retro Game et que
j'aimais beaucoup aussi.
Voilà, que j'ai cofondé donc en 2004 ou 2005, je sais plus. Ça devait être 2005. Bref, il y avait un magazine qui s'appelait Game Fan et la rubrique qui plaisait le plus dans Game Fan, c'était la rubrique rétro. Donc moi, j'écrivais des articles rétro là-dedans. Comment ?
Je plaide coupable. J'adorais cette rubrique.
C'est gentil, merci. Bon, bah écoute. Et en fait, il y a un des rédacteurs, enfin le rédacteur en chef de l'époque, qui s'appelait Fabien Vautrin, a eu une idée géniale. Il a fait, bon, comme c'est la rubrique qui plaît le plus, on devrait faire un hors-série. Et donc, il a fait un hors-série qui s'est appelé Game Museum, un très joli magazine. Aujourd'hui, je pense que si on le refaisait, on réécrirait tout. Mais voilà, c'était, les origines du rétro gaming en France. Et ce magazine a énormément plu. Il a eu beaucoup de succès avec sa jolie couverture en forme de Super Famicom. C'était super joli. Fabien avait fait un travail incroyable. Et le truc a tellement plu que on a décidé d'en faire un magazine récurrent qui est devenu Retro Game. Et donc j'ai été co-rédacteur en chef et il y a eu très peu de numéros parce que la boîte a coulé parce que Game Fan lui se vendait pas du tout. Enfin très très peu, alors que Retro Game lui il gagnait un peu de sous je crois. Et bref, et ça s'est arrêté et avec Marc Petroni qui était lui aussi un des rédacteurs de Retro Game, on était un peu frustrés. On avait nous donné des articles, plein d'articles qui finalement n'allaient jamais être publiés. Et puis on s'était dit bon ben voilà, après tant de promesses et d'annonces et tout ça, ça ne sortira pas. Donc on va et puis le gérant nous disait les gars, vous êtes bien gentils, mais si vous voulez que ça sorte, il faut mettre la main à la poche, vous payez. On n'avait pas trop apprécié la façon dont il nous l'avait dit. Donc on a dit bah oui, on va le payer, mais au moins ça ressemblera à ce qu'on veut faire nous quoi. Et puis on a cherché des éditeurs dans un premier temps avec Marc. Et on trouvait pas du tout. Moi, les éditeurs que j'avais contactés, j'avais été au Salon du Livre pour démarcher plein d'éditeurs. Je leur ai montré mon projet sur un livre sur l'histoire de Nintendo. Ils m'avaient dit « Ouais, c'est super, mais bon, tu sais, les gamers, ils savent pas lire, donc ça marchera pas. » Et donc, au bout d'un moment, en fait, on était un peu un peu dépité. Et Marc, il me dit, bah, peut-être que c'est un peu notre dernière chance, mais ma copine, elle a, dans sa fac, bah, elle a une connaissance qui est visiblement, qui est éditeur. Alors, ça n'a rien à voir avec le jeu vidéo ni les trucs geeks. C'était sur les scouts. Enfin, bref, c'était une maison d'édition qui était dédiée au scoutisme. Donc, c'était quand même très spécifique. Fait, mais on peut peut-être le rencontrer, peut-être que lui il a des contacts, il pourra nous aider. Donc on lui donne rendez-vous au Montparnasse un soir après le boulot et on le rencontre, il nous écoute et lui il était un petit peu geek aussi, il aimait bien les jeux vidéo, il me fait mais vos idées elles sont super mais faites-le vous-même. Et voilà comment on a décidé finalement de on savait pas nous comment faire à la base hein. Nous on était juste pigistes, moi je travaillais à l'ambassade, j'étais traducteur interprète, enfin je sais pas publier un livre, je sais même pas comment contacter un éditeur et puis les distributeurs ont fait comment et puis comment on fait une maquette. Bon, j'avais déjà des contacts qui pouvaient m'aider éventuellement, mais enfin voilà, monter une maison d'édition
c'est pas rien quoi.
Venu à l'idée spontanément quoi.
Alors après avoir cofondé Pixel Love, tu vas partir sur l'aventure au MacBook. Est-ce que tu voulais changer d'air dans le sens, est-ce que tu voulais continuer à sortir des ouvrages sur le jeu vidéo, mais pas que, parce que là chez au MacBook il y a quand même des choses qui sont plus larges que dans le domaine vidéoludique. Tu sors des livres dédiés à l'univers du Japon de manière beaucoup plus large, avec du manga, des acteurs asiatiques ou encore le franc-ponais. Ça c'est un truc que, si jamais vous avez jamais lu, faites-le parce que c'est absolument magique. C'est ça qui t'a amené à créer au MacBook ou comment ça s'est passé?
Bon, il y a plein de raisons, je rentrerai pas dans les détails parce que après c'est des choses privées entre Marc, Sébastien.
Ah oui, moi, non mais...
Mais effectivement, à un moment, on avait plus la même vision des choses et effectivement, c'était soit moi, soit eux qui partaient. Puis bon, il y a pour plein de raisons, j'ai dit bon, non, c'est moi qui vais partir. Ce qui m'a finalement arrangé dans le sens où effectivement, j'avais cette volonté d'aller au-delà du jeu vidéo. J'avais envie de faire énormément de choses vis-à-vis du Japon, du manga, de la pop culture d'une manière générale. Et avec Pix, ce qui n'était pas forcément un mal, mais on s'était restreint à ne faire que du jeu et si possible rétro. Donc au final, je me sentais un peu à l'étroit et le fait de monter au MacBooks m'a permis de d'étendre un petit peu mon champ de compétences et puis de sortir du jeu vidéo rétro. Ouais.
D'accord. Et donc du coup, pour parler un peu maintenant de MacBooks, rétro laser. Comment t'es venu l'idée? Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est?
Rétro laser, bah tiens, j'en ai un juste ici, c'est le dernier numéro en date. Rétro laser, c'est une publication trimestrielle et qui parle de pop culture au sens très large. Moi, le nom hein, ne vous aura pas échappé. Rétro laser, c'était une des attaques dans Goldorak, en tout cas tel qu'il était chanté dans le générique. On a mis un Z en hommage à Dragon Ball Z, évidemment. Mais c'est un voilà. Il existait donc un MOOC pour le jeu vidéo rétro qui était donc Pixel Love, que j'avais aussi donc cofondé parce que j'étais premier rédacteur en chef. Et ben je voulais la même chose en fait pour toute la pop culture du 20e siècle. Et donc c'est ça la ligne éditoriale, c'est toute la pop culture du 20e siècle. Dès que ça commence à 2001, c'est mort. On n'a plus le droit d'en parler, c'est interdit.
Bah écoute, ça tombe bien, on va te proposer de jouer à un jeu. On arrive bientôt sur la fin de cette émission. On arrive à l'instant speedrun.
Ok.
Alors, c'est simple, on a une minute et on te pose à chaque fois à tour de rôle une question et tu dois répondre par l'une ou l'autre. Le temps de mettre le chronomètre, alors je suis désolé hein, pour la technique, il n'y aura pas de chronomètre visible à l'écran, mais nous, je le fais, c'est en cours là, c'est okay. Parti. Là, attention. Alors, tu es plutôt Sega ou Nintendo dans les années 90?
Pas Nintendo.
Final Fight ou Street of Rage?
Final Fight.
PlayStation ou Xbox?
PlayStation.
Aladdin, Super NES ou Mega Drive?
Mega Drive.
Team physique ou des maths?
Physique.
NES ou Famicom?
Famicom.
NES ou Master System?
NES.
Gunpei Yokoi ou Yamauchi?
Yokoi.
Final Match Tennis ou Virtua Tennis?
Final Match Tennis.
Alors attention, NES ou PC Engine?
PC Engine.
Uncharted ou Tomb Raider?
Uncharted.
Columns ou Tetris?
Tetris.
Mario Kart 64 ou Diddy Kong Racing?
Mario Kart 64.
Alors, sushi ou maki?
Sushi.
Mario 3D ou Mario 2D?
Mario 3D.
Tokyo ou Paris?
Tokyo.
Pardon, j'en ai Final Fantasy ou Dragon Quest?
Ni l'un ni l'autre. Allez, Final Fantasy. Non, ouais, j'en sais rien. J'aime pas les RPG et ni l'un ni l'autre en fait. Ouais, enfin bref.
PC Engine GT ou Game Boy?
PC Engine GT.
C'est tout, allez, parce que là on pourrait continuer encore longtemps. TMDJC, je te laisse conclure par la question traditionnelle.
Eh bien oui, alors je pense que jusqu'ici Florent et moi on s'appréciait plutôt pas mal, mais il est fort probable qu'à partir de maintenant tu me détestes et qu'on ne se parle plus jamais.
Dis-moi
parce
tout.
Parce que je vais te poser une question, tu vas détester. Tu pars sur une île déserte et tu as un lecteur MP3 mais qui ne joue qu'une seule musique vidéoludique, c'est laquelle?
Une seule musique vidéoludique? Ouais, bah si, ça, j'en ai une qui m'est venue à l'esprit là, un peu naturellement. C'est est-ce que c'est une musique dans Zelda 3? Chanteur. Mais je crois que ce serait celle-là que j'emporterais à la limite, ouais. Ouais, parce qu'avoir une musique de Mario, tu vois, un peu samba, etc., c'est beaucoup trop joyeux pour te retrouver tout seul sur une île déserte, quoi.
Ouais. Très bien. Eh ben, écoute, il nous reste plus qu'à te remercier de nous avoir accordé ton temps. Ça, on t'a retenu beaucoup plus que prévu que le temps que tu nous avais accordé à l'origine. Donc, merci beaucoup.
Merci beaucoup, ouais.
Ben, c'était un plaisir. Et puis surtout, vous connaissez mon boulot, ça fait super plaisir, quoi. Donc, merci d'avoir été là pendant toutes ces années, et puis avoir soutenu notre travail, quoi, que ce soit chez Pix ou chez Omake. Merci les gars.
Évidemment. Merci beaucoup, Florent. Bonne continuation à toi et à très bientôt, là.
Merci les gars. À plus.
Et voilà. Donc, c'était une partie. Ouais. Petite partie de l'interview de Florent Gorge, qu'on remercie encore une fois. Et on a une version longue qui est montée par les mains de maître du vénérable TMDJC. Vous n'êtes pas prêt.
Qui va arriver d'ici une petite quinzaine de jours. Voilà, pour ceux qui nous voient en live, effectivement, oui, on se change pour les interviews. On est comme ça, nous.
Voilà. Donc, on vous rappelle, hein, l'interview arrive dans 15 jours, la version longue. Donc, si vous découvrez cette émission aujourd'hui et que vous kiffez Florent Gorge, vous voulez en apprendre plus, eh bien, lâche ton follow sur l'application podcast de ton choix. On est partout, le chef Thibaut, nos amis partout. Et dans 15 jours précisément, elle sera là. The Talos Principle 2 arrive sur PS5 en édition Devolver Deluxe. Suite directe du premier épisode, c'est un puzzle game, mais tout à la première personne, au graphisme superbe. Vous êtes plongé dans un futur où l'humanité a disparu et le monde est peuplé de robots. Vous allez devoir résoudre le mystère d'une grosse structure au pouvoir impressionnant. Et plus vous allez avancer dans l'aventure, et plus vous allez devoir réfléchir et trouver des solutions afin de ne pas faire les mêmes erreurs que les humains. Attention, car vos choix et prises de position auront un impact sur la suite. Sortie prévue le 12 avril sur PS5, à noter que le jeu comprend un artbook ainsi qu'une boîte de collection.
La nouvelle itération de Contra Opération Galuga promet de capturer l'essence du jeu original tout en introduisant des éléments modernes pour attirer à la fois les vétérans et les nouveaux joueurs dans l'univers violent et prégnant du Run and Gun. Les fans peuvent s'attendre à une expérience intense au personnage avec des capacités uniques et la possibilité de jouer jusqu'à 4 en mode arcade. Contra Opération Galuga marque un retour triomphant, oui triomphant, pour l'une des séries les plus emblématiques en boîte sur PlayStation 5 et Nintendo Switch, avec une sortie prévue le 26 avril 2024.
Moi je veux toute la fin d'émission comme ça. Ark Runner, c'est un roguelite en TPS, au style graphique, cyberpunk. Non, je sais pas le faire. Vous allez tenter de battre une IA sur Ark. On choisira un personnage parmi 3 classes et hop, on part à l'aventure. Il y aura un choix d'armes, d'aptitudes, le tout qui pourra évoluer au fil de l'aventure avec une musique psychédélique, jouable à seul ou à plusieurs, sortie prévue sur PS5 le 18 avril.
La scène du jeu vidéo est en effervescence. Avec l'annonce de la sortie physique de Pacific Drive Deluxe Edition. Cette édition spéciale comprendra le jeu de base où vous devrez affronter les dangers surnaturels, un pack d'objets cosmétiques pour personnaliser votre véhicule, un set de 3 cartes artistiques, un carnet de voyage de 24 pages ainsi qu'un fourreau de luxe dans une couverture réversible. Pacific Drive est un roguelike sur bitume qui promet une aventure de survie palpitante au cœur de la zone monde d'exclusion olympique avec des éléments de gameplay immersifs. Un monde qui change à chaque nouvelle exploration. Je suis impatient de mettre la main sur cette édition physique exclusive à la PlayStation 5, oui, le 9 avril 2024.
À noter que c'est un FPS.
Oui, mais en voiture.
Donc
c'est un peu différent.
Genre.
Non mais c'est vrai qu'en fait c'est bête, mais quand il y a des trucs où mes yeux peuvent s'attarder, je suis malade moins vite que quand t'as juste tout un écran en fait qui bouge. C'est le principe d'ailleurs de la vue à la troisième personne. Hein.
Très bonne excuse de ça, oui. Il faut le savoir. Alors, c'était une rapide sélection de ce que propose oui. Maximum Entertainment, bien évidemment. On a quelques petites notes, on va vous en parler, ouais. Qu'on a noté à côté. Shinobi, ça a été mon focus il y a l'émission d'avant. Il arrive enfin en version boîte sur Switch, prévue le 12 avril prochain. Le 12 avril de ce mois-ci, d'ailleurs.
Ouais, il y a les jeux d'action-aventure musicales, Figment et Figment 2, Creed Valley, qui sont enfin réunis dans une édition physique épique. Alors, juste pour rappeler rapidement, Figment, il invite à explorer un univers surréaliste unique et rempli de musique et d'humour. Et enfin, franchement, les graphismes sont vraiment géniaux. En plus, c'est un système de narration à plusieurs niveaux où il faut que je fasse vite. Le deuxième, il parlait surtout des cauchemars qui ont brisé la boussole morale qui rend l'esprit incapable de fonctionner correctement. Franchement, j'ai beaucoup aimé ces deux jeux et le fait qu'ils soient réunis dans une seule compilation, on est très très heureux.
Et j'en profite, si tu peux juste te décaler un peu de la caméra.
C'était pardon, surtout c'était ça que ça, tu voulais dire. Voilà. Je pensais que j'allais trop...
Teenage Mutant Ninja Turtle Arcade Raft of the Mutant qui arrive en version boîte sur PS5, Switch, PS4, le 23 avril. Pour rappel, c'est le jeu d'arcade sorti en 2017 en arcade qui arrive sur console avec des niveaux en plus, jouable à 4, combat de boss, bref, du lourd. Et on termine enfin avec Double Dragon, Gaiden, Rise of the Dragon, qui est déjà sorti. Donc voilà, il y a rien de plus. C'était juste, ça me fait plaisir. C'est pour moi, c'est cadeau, les
c'est
gens.
C'est cadeau. Oui, mais c'est pour nous. Parce que je crois que voilà, hein, Double Dragon, Gaiden.
Il y a une méga mage qui est arrivée et surtout, elle est gratuite. Avec Ranzu, c'est un nouveau personnage jouable, un mode survival, un mode versus, du online en coop, des nouveaux coups et même deux nouveaux personnages qui n'ont pas été encore annoncés. Tout ça, c'est déjà dispo car c'est sorti le 4 avril dernier.
Yeah!
Cher TMDJC, c'est quoi aujourd'hui le petit code promo qui fait plaisir?
Ah, le petit code promo qui fait plaisir. Merci, merci de me demander. Si je te dis Teenage Mutant Ninja Turtle Wrath of the Mutant sur PS4, PS5 ou sur Switch?
Eh ben, moi je dis ça fait plaisir. Je le vois tourner puisque je suis en live sur Twitch, hein, donc je le vois tourner comme tout le monde.
Si je te dis que je peux t'avoir 15% sur le jeu, t'es content ou pas?
Ça fait, moi je prends toujours.
Tu prends toujours?
Dès qu'il y a moyen d'économiser un peu, hein, les temps
moins
sont
moins 15%, mais avec un code, comme d'habitude. Alors, merci Thibaut, parce que le code de l'amour qui tue. Le code, c'est Avril O'Neill. En un seul mot, tout en majuscule. A-V-R-I-L-O-N-E-I-L. A-V-R-I-L-O-N-E-I-L. Avril O'Neill, le meilleur code du monde. Et c'est directement moins 15% sur le jeu. Je suis comme ça, moi.
Tu régales.
Mais je suis régal. En plus, c'est pas moi qui paye, c'est Thibaut.
Chronique suivante.
Alors, de quoi allons-nous parler?
Je suis obligé de mettre la casquette qui va bien. La casquette qui est jamais sortie, qui est introuvable, il faut le savoir.
Mais t'es beau.
La casquette Neo Geo. Pourquoi on va parler de la Neo Geo, cher TMDJC? Je te laisse déballer pendant que je vais présenter. Je vais parler. Alors attention, il faut regarder le retour caméra pour que ce soit bien au milieu. Sinon, c'est compliqué.
Et je vais essayer de
donc,
toujours
en fait,
parler.
Donc en fait, c'est la MVS Mini qui est sortie le mois dernier. À savoir que si vous êtes avec nous en live sur Twitch, eh bien, elle est actuellement en promo sur le site. Vous avez le petit code promo qui va bien. Je vous renvoie à l'émission dernière, à la dernière émission. Oui, tout de suite. Parce que en podcast, quand l'émission sortira en podcast, c'est fini. Le code promo, il sera plus là. Donc, la MVS Mini. Alors, on a le petit câble. J'ai tout préparé. Alors, ça, c'est fourni avec. Bien sûr, ça, non. Hein. Ça, on va expliquer qu'est-ce que c'est.
Oh, il est bien, cet homme. Et puis, on voit quand c'est allumé.
En fait, c'est le design de la borne japonaise de SNK sortie dans les années 90. Et on a pas moins de 45 jeux préinstallés dessus. On a de l'arcade, de la baston, du sport, du run and gun, du beat'em up. Donc, on aura en vrai du Samurai, du Metal Slug, du Fatal Fury, du Super Set Kick, Kizuna Encounter, Last Blade 1 et 2, 3 Kunbun, Sangoku 1, 2 et 3, Baseball Star, bref, et encore plein d'autres jeux. Bon, il manque certains classiques, ou par exemple, pourquoi pas, c'est cool d'avoir mis Super Set Kick 1, je sais pas si tu l'avais fait à l'époque, cher Terre
à l'époque,
lycée.
Non, je l'ai fait en émulation
oui,
après.
Oui, mais voilà, ou bien plus tard. Moi, je l'avais fait à l'époque, c'était le début d'une licence extraordinaire. Maintenant, le 2 est beaucoup plus culte. C'est pas dramatique, ça permet de mettre un pied dans cette licence, mais voilà, c'est dommage. La borne est fournie avec un câble USB, USB-C. Qu'est-ce qu'il fait, wow. Le TMDGC? Il appuie sur l'écran de mon ordi, du coup, il fout le bazar. Donc, je disais, elle est fournie avec un câble USB pour la connecter à l'alimentation. Bien sûr, tu peux la connecter sur la télé en 720p. Modifier le ratio de l'écran, c'est très important. Je vous déconseille fortement de jouer en 16:9. En 16:9, c'est dégueulasse. De toute façon, alors dégueulasse.
Attention, légalement, c'est même interdit. Hein.
Voilà, il y en a qui vont en prison pour ça, faut le savoir. Non, pourquoi? Parce qu'à l'époque, la Neo Geo, c'était du 4 tiers, hein, tout simplement. Donc, je vous recommande vraiment. Donc, je l'ai dit, tu peux modifier le ratio. Voilà, jouer à deux sur la télé, bien évidemment, avec des manettes vendues à part. Ça, c'est mes manettes perso, c'est à moi. Hein. C'est hop là, voilà, elles sont vendues séparément. On peut les connecter. On a un petit port casque sur le côté de la borne qui permet d'écouter le jeu au casque. On a deux ports manettes, un de chaque côté, et ça permet de connecter ces deux manettes. Je l'ai dit. On peut même connecter le stick arcade pro de SNK. Qui devient du coup un stick
très, très dur à jouer quand tu regardes pas l'écran.
surtout qu'à la base tu n'es pas joueur stick. Excusez-moi, je repose mon atos. Alors, la résolution, on peut jouer en direct sur la borne et l'autre joue sur la télé avec une manette si on n'a qu'une manette, mais il faut que ça reste du dépannage, on va pas se mentir. L'écran de la borne, il est de bonne résolution, mais il est un poil petit pour ça passe en dépannage. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. La résolution de l'écran de la mini-borne, par contre, il est très propre, il est de bonne qualité.
Il est, là, moi qui l'ai sous les yeux...
Et alors, pourquoi moi j'aime beaucoup cette borne? Parce que on peut le voir, vous le voyez à l'écran là, le sticker. Non, alors hop, un petit peu par là, voilà. Le sticker, il faut le coller, tout comme là, et il est beaucoup plus épais que cette borne là. Parce que moi, par exemple,
toi, tu as toutes les collections en fait.
Oui. Voilà. Ça, c'est les miennes, hein, que j'ai acheté il y a longtemps. Elles sont sorties il y a longtemps. Et du coup,
on voit qu'il n'y a pas forcément les mêmes jeux hein, dessus.
En plus, là, vous avez 40 jeux, alors que sur la MVS Mini, vous en avez 45. Enfin, le stick. Alors, bien évidemment, le stick de la borne MVS Mini, il est un poil souple. Hein, on va pas se mentir. Me parlez pas de. Est-ce que c'est Shimizu? Est-ce que c'est Sanwa? Le stick et les boutons. Bien
du
évidemment.
Du coup, c'est
que
du
non.
Shimizu ou du Sanwa?
Bien évidemment que non. Mais pour être honnête, ça sort bien, ça passe bien, ça marche. Globalement bien, j'ai pas ressenti de grosses difficultés. J'ai fait un garou, j'ai fait du coffre, les jeux que je connais très bien, les combos, les furies, tout sort bien. Le seul point, attention, donc c'est un port HDMI qu'on connecte à la télé, mais la borne, la MVS Mini, c'est du HDMI Mini. Donc ça, et c'est pas fourni avec, faut le savoir. Donc voilà, c'est le petit danger. À qui s'adresse cette borne MVS Mini?
À moi déjà.
Voilà, mais surtout, pour les gens qui seraient intéressés, bon, alors déjà, faut être, entre guillemets, pour les gens qui veulent découvrir la gamme Neo Geo des années 90 de manière réglementaire et légale, ça permet de mettre un pied dedans pour pas trop cher. Ou quand on a des enfants, si on veut leur montrer à quoi ils jouaient papa, à quoi ils jouaient maman quand elle était plus jeune, quand elle avait votre âge et petit, et ben voilà, quoi, on jouait. Et on peut mettre ça sur la télé, c'est du 720p, je l'ai dit. J'ai oublié de le dire, on a des save states, on en a jusqu'à 4. Donc ça s'adresse à ces gens-là pour un petit budget. Si on veut... Parce que j'ai fait un petit classement, je me suis amusé à faire un petit classement, puisque j'ai également le stick Arcade Pro SNK. Si on veut faire une qualification de matériel, j'ai envie de dire, le stick Arcade Pro est mieux. Maintenant, c'est plus cher. Oh, Art of Fighting 1, bijou. J'avais kiffé à l'époque le jeu.
Je
l'ai eu dans les années 90, je tiens à préciser, 1500 francs de jeu. Voilà, c'est pour moi, c'est cadeau. Je ne l'avais pas payé ce prix-là, mais c'était ça.
Je précise que par défaut, c'est les versions Neo Geo qu'on a, qui sont là avec toutes les options, donc avec le réglage de la difficulté.
Ah oui
Oui,
vas-y.
Non, vas-y, ouais.
Il y a la langue.
Oui.
Pas de Bonaldi aujourd'hui dans cette chronique, n'est-ce pas? Il y a l'anglais. Et il y a les langues asiatiques. Bon, ça, on s'en fout. Mais surtout que dans les années 90, c'était comme ça. Mais vous pouvez mettre l'anglais. Bon, après, pour des jeux de combat, des jeux de sport, des run and gun et ainsi de suite, hein, on s'en fout de la langue. Hein.
Ça semblait logique. Je disais, c'est les versions Neo Geo parce que t'as les versions MVS et AES. Là, c'est vraiment les versions console par défaut, mais c'est vraiment les versions d'origine. Donc, on parle pas des conversions qui sont sorties sur les autres supports, hein, évidemment.
Voilà, je crois que... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, et le stick Arcade Pro, donc c'est la gamme pour moi intermédiaire. Et le top du top haut de gamme, bien évidemment, c'est la borne le bar top MBSX qui là, c'est... vraiment le top, l'image elle est folle, tout est ouf dedans, mais bien évidemment ce n'est pas le même prix. Là, faut voir ça comme un pied d'entrée. Voilà les langues. Voilà. Hey, on a trouvé tout de suite.
Ouais, mais en fait, l'accès aux options, que ce soit pour la console ou pour la borne ou pour les jeux, c'est très simple. C'est Start Select en même temps, donc t'accèdes directement.
Oh mais ça c'est dans le jeu, mais quand t'es à l'interface en haut, t'as une gros cranté. Ah non, t'as la roue crantée.
Ah, mais je la vois pas la roue crantée. Là, c'est directement.
Elle est là, la roue crantée.
Ah, tu peux y accéder aussi voilà, par là. D'accord.
Tout simplement. Pas de Bonaldi, je l'ai dit dans cette émission aujourd'hui.
Ah, mais c'est la même chose que quand tu fais.
Et oui, tout ouais. à fait, tout à fait. Je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire sur cet objet, sur cette mini borne. Moi, je la trouve très belle. Les jeux sont très agréables. 45 jeux, c'est varié. Le line-up de jeux est différent des anciennes bornes, comme je l'ai dit. Comme tu l'as dit, Chartend JC. Voilà. Je propose chronique suivante.
Allez. Et on arrive à l'instant vinyle.
Alors l'instant quoi, c'est quoi qu'est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui, cher TMDJC ?
Eh ben, qu'est-ce que je vais vous parler en français dans le texte ? De quoi vais-je parler ? Je vais vous parler de Secret of Mana, je l'ai dit en intro tout à l'heure, mais pas n'importe quelle version. Le vinyle dont on parle, c'est Secret of Mana Lo-Fi. Alors c'est quoi ? Alors déjà, Secret of Mana, déjà avant toute chose, bah, c'est un RPG hein,
Attends,
histoire.
C'est quoi Secret of Mana ?
Merci de me poser la question, Terry. Heureusement que t'es là. Bah, Secret of Mana est un RPG avec une histoire captivante, avec des personnages mémorables, qui reste un des favoris parmi les amateurs du genre. Sa bande-son a été richement composée par Hiroki Kikuta pardon, et arrangée par Kenji Ito, dont j'aime beaucoup le travail, parce qu'il avait également composé la bande-son du premier Mystic Quest. Donc je sais pas si tu te souviens, mais en tout cas, voilà. Et puis, alors, c'est quoi le lo-fi ? Parce qu'il y a plein de gens qui savent pas, on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Bah, c'est un style musical qui en fait s'appuie sur l'abréviation de low fidelity, qui est vraiment l'extrême inverse de high fidelity. Donc bah, le but du jeu justement c'est de proposer des sons qui sont vraiment atténués en termes de qualité. C'est un style qui est né aux États-Unis à la fin des années 80, qui se caractérise par une production sonore de qualité voilà, volontairement réduite, créant une atmosphère relaxante et nostalgique, souvent instrumentale mais pas que, parce qu'il y a, on a aussi de l'intégration d'éléments hip-hop, jazz, soul, des échantillons de dialogues de films, d'animés qui rehaussent un petit peu l'expérience auditive, j'ai envie de dire. Alors pourquoi je vous parle de cela ? Bah déjà peut-être, est-ce que tu veux qu'on s'en écoute un petit extrait ?
Moi j'osais pas le dire.
Allez, on écoute un petit extrait. J'ai surkiffé ce vinyle. Alors moi, ce vinyle, je ne le connaissais pas. On était en train de chercher ce qu'on allait vous proposer comme vinyle ce mois-ci. Et t'as Thibaut qui me fait, mais tu l'as écouté du coup le dernier Secret of Mana ? J'ai fait, pas du tout. Donc il me dit, tiens, vas-y, écoute-le. Donc évidemment, je l'écoute. Et comme d'habitude, je me fais mon propre avis. Voilà, il nous propose des trucs. On est d'accord, on n'est pas. Et là, je tombe littéralement amoureux. Et surtout, après, je creuse parce qu'en fait, moi, je vous parle de Secret of Mana parce que c'est un jeu dont je trouve on n'a pas assez parlé parce qu'il est vraiment excessivement bon et que c'est une OST qui est assez méconnue et que là vraiment on a une proposition de quelque chose de complètement réorchestré. Alors toutes les reprises, je le précise, ont été arrangées par Blind. C'est un super travail, sachant que si jamais vous allez écouter ce qu'il fait sur Bandcamp, il en est pas à son coup d'essai. Il a fait plein de trucs vraiment de qualité. Et quand je vous dis que j'ai creusé le truc, c'est que là aujourd'hui, moi je vous parle de ce vinyle, mais il y a également chez Just for Games la possibilité d'écouter le volume 2 de Zelda qui s'appelle Doors of Time, qui a été fait par The Floor of Is Lava, et c'est pareil, c'est magique. Si jamais vous avez l'occasion, jetez une oreille là-dessus, vous ne regretterez pas l'achat de ces vinyles. Il y a très souvent, j'en fais des caisses parce que j'adore la musique de jeux vidéo, mais clairement, c'est vraiment un style qui s'y prête. Le jeu vidéo se prête vraiment à la réécriture lo-fi. Et puis, pendant que j'y suis, et puisque j'aime bien aussi le travail de Save Point et de 88-bit, on a quand même la version lo-fi de Super Mario 64, c'est pareil.
Ça fait plaisir.
Petite dédicace à Ken Bogard, parce que je pense à Didier Dox, qui est la version de Didier Dox, elle est géniale. Voilà. Alors le vinyle, je parlais juste avant de Zelda volume 2. En fait, il y a un premier volume évidemment qui existait. Je ne crois pas que le premier vinyle ait été édité chez Just for Games, il ne me semble pas. Mais il est tout aussi bien.
Chez Maximum Entertainment.
Maximum Entertainment. Ah, merci.
Je t'ai pas sûr.
Mais oui, mais t'as raison. Corrige-moi. Et pareil, le premier Zelda a été fait par Save Point également, dont j'adore le travail. Donc, je remets une petite couche sur Secret of Mana. Le vinyle est génial. Je l'ai écouté en boucle dernièrement. Alors, pour que vous sachiez, en ce moment, j'ai été débordé avec plein de trucs à faire, beaucoup de trucs à écrire. Et c'est pas toujours facile d'écrire de la musique, de quelque chose quand on écoute de la musique. Donc, très souvent, surtout quand je dois écrire des cours ou des trucs comme ça, bah, malheureusement, je suis un peu obligé de mettre ça de côté. Le gros avantage du lo-fi et notamment de cette OST, c'est que vous pouvez l'écouter avec n'importe quoi.
Là, on est sûr, on aura fait plus d'une heure d'émission aujourd'hui. Chronique suivante.
J'ai essayé de faire court, mais...
Cher TMDJC, aujourd'hui, tu vas nous parler de Under Lily's Quietus of the Night, n'est-ce pas?
Yes.
C'est bien ça?
Et tu l'as très très bien dit, ouais, qui est un jeu qui a su captiver l'attention des amateurs de Metroidvania avec son esthétique sombre et sa bande son envoûtante. Le jeu se déroule dans le royaume de Land's End où une pluie mortelle a transformé les habitants en créatures corrompues, mais genre vraiment corrompues, vous allez vous en rendre compte. Bah, vous incarnez Lily. Une jeune fille pure qui se réveille dans une église avec pour mission de purifier son monde. Alors elle est accompagnée par des esprits. Alors au départ un seul, hein, c'est ce qu'on va voir ici à l'image pour ceux qui nous suivent, des chevaliers déchus, et elle parcourt ce monde en ruine, combattant des ennemis et des boss qui se dressent sur son chemin. Chaque victoire lui permet de recueillir de nombreux esprits et donc de gagner en puissance, parce que alors déjà il y a une évolution naturelle qui va se faire, mais on va pouvoir en plus choisir ce qu'on améliore et comment on l'améliore. Donc c'est vraiment un jeu où vous avez mille façons de pouvoir faire évoluer votre personnage. Le gameplay d'Under Lily est à la fois exigeant et gratifiant, qui offre une variété d'attaques et de combinaisons possibles grâce aux esprits collectés, je le disais juste avant. Les joueurs peuvent personnaliser leur style de combat, on l'a dit également, mais en choisissant donc les esprits qui correspondent le mieux à leur manière de jouer. C'est-à-dire qu'il y a certains boss qui vont vous donner des armes supplémentaires, des choses qui tournent autour de vous, qui attaquent par devant, qui attaquent par derrière. Donc en fonction de ce que vous voulez faire et de comment vous voulez jouer, si vous êtes plutôt un joueur défensif ou offensif, bah vous allez faire évoluer votre personnage d'une manière plus ou moins différente. Alors le jeu propose également un système d'amélioration de compétences, pas seulement en fait dans ces éléments là, mais je vais pas en dire trop parce que j'ai pas envie de vous gâcher la surprise, parce que vous allez voir qu'en fonction de vos choix il va vraiment se passer des choses, notamment quant au chemin que vous allez prendre et comment vous allez le faire. Ça c'est vraiment l'aspect Metroidvania qui est mis en lumière. Les graphismes, même si c'est pas au niveau d'un triple A, ils sont magnifiquement réalisés avec des animations qui sont ultra fluides et des décors très détaillés. Moi, j'aime vraiment beaucoup les décors de ce jeu qui donnent vie au monde de Land's End. Alors, les critiques ont souvent comparé Under Lily à Hollow Knight. C'est vrai qu'il y a des points communs.
Ah oui?
Ouais, on peut voir qu'il y a une difficulté qui est vraiment équilibrée. C'est-à-dire que bah, quand tu te plantes, c'est vraiment de ta faute la plupart du temps. Et son monde, il est vraiment riche en plein de choses différentes, notamment en émotions, parce qu'il y a un scénar qui vient se greffer par-dessus, qui va jouer énormément. Le jeu, il a été salué pour sa capacité à mélanger des éléments classiques de design de jeu avec une narration moderne et mature. J'en dirai pas plus là-dessus aussi pour ne pas vous gâcher le plaisir. Je précise que ce jeu, je l'ai pas encore terminé au moment où je vous en parle. Je suis obligé de faire un choix pour l'instant entre deux chemins qui me posent problème, mais bon, je mets ça de côté. En tout cas, ça vous incite à explorer chaque recoin du jeu parce qu'il y a plein de trucs à découvrir, des trucs cachés. Les boss, chacun avec sa propre histoire tragique qui ajoute une dimension émotionnelle au jeu, rendant chaque combat mémorable. Alors, en conclusion, pour faire très vite, Under Lily Quietus of the Night est un titre qui mérite l'attention des fans du genre, avec une ambiance captivante, son gameplay profond et sa narration poignante. Et il se distingue comme une expérience mémorable et enrichissante, en tout cas pour moi. Que vous soyez un vétéran des Metroidvania ou un nouveau venu, Under Lily est une aventure qui sera vous charmer, mais également vous défier.
Il est magnifique le jeu.
Oui, mais je t'avais dit que c'est un jeu qui risquait de te plaire. Je plaisante pas, je commence à connaître un petit peu tes goûts. Voilà, et chaque personnage, bien sûr, chaque boss, on
ambiance.
Est en train d'en voir un. J'adore la musique. La musique est géniale.
Pour chers amis, chers auditeurs, chers viewers, chers personnes sur YouTube, je sais pas comment on dit. Hein, si vous êtes avec nous, vous regardez le replay YouTube ou sur Twitch, hein, c'est des séquences maison.
TMDJC. On l'a pas précisé, mais à chaque fois, évidemment, ce sont nos prises directes, hein, les jeux que Terry a présenté tout à l'heure. Évidemment, c'est lui. Voilà, les jeux que je présente ici, c'est donc quand vous me voyez prendre des coups, c'est de ma faute. Hein, là, c'est juste que j'ai joué comme un sac.
Non, mais le jeu est vraiment super.
Le jeu est vraiment super. Alors là, en plus, à vraiment à faire sur grand écran, je le précise
c'est,
ici.
C'est original de le voir la petite fille, donc Lise, accompagnée de cette espèce de spectre là qui...
En fait, il y en a un par défaut.
Wow, mais la deuxième phase du boss.
La deuxième phase du boss. Alors, vous allez voir que tous les boss je vais éviter de trop en dire parce que pareil, il y a à chaque fois des petites surprises. Mais oui, en fait, c'est pas là au départ, vous avez un accompagnant, mais au fur et à mesure, vous allez pouvoir en choper plusieurs et avec un gameplay que vous allez pouvoir faire évoluer. Là, tu vois en bas à gauche, tu as trois cercles.
Oui, c'est les types d'armes.
En fait, les cercles, vous allez pouvoir en fait en avoir plusieurs à disposition et switcher de l'un à l'autre par le biais d'un bouton. C'est très très bien fait.
Eh ben écoute, moi je te propose qu'on passe à la suite.
Allez. C'est le moment du coup de cœur venu d'ailleurs. Terry, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de Mario versus Donkey Kong. Il est sorti en février dernier en exclu sur Switch. Hein. Bon, attention, c'est un remake de la version de Game Boy Advance sortie en 2004. Bon. Le pitch, Donkey Kong a volé des jouets à l'effigie de Mario, mais genre l'intégralité des jouets. Bah oui, tant qu'à faire, il prend tout et puis voilà. En fait, c'est un scalper, Donkey Kong. C'est ça, non? On pourrait dire.
Mais déjà, dans les premiers jeux, qui est le méchant, qui est le gentil entre Donkey et Mario, on sait pas trop. Hein.
Voilà, c'est ça. Le gameplay, donc, c'est un platformer mélangé avec du casse-tête. Et à chaque fois, c'est le même principe. On doit récupérer trois cadeaux, qui sont optionnels mais gratifiants quand on veut le perfect. Ainsi qu'une clé pour sortir du niveau. Puis, dans un deuxième temps, on devra sauver les mini Mario et le tout dans un temps imparti. Chaque monde comprend 6 niveaux. Puis, on doit réussir à ramener tous les mini-Mario dans une box. Et enfin, à la fin du monde, on affronte Donkey Kong. Et lorsqu'il a perdu, il s'enfuit, comme d'habitude, dans un autre monde. Il y aura des niveaux bonus où le but est de récupérer des vies. Car oui, le jeu est assez généreux en vie. Ça change complètement de Have a Nice Death. Hein, on est dans l'opposé, là. On est vraiment dans la gentillesse et la douceur. Hein. Dans un premier temps, donc, les niveaux sont simples hein, et progressivement, les niveaux se corsent. Le jeu va rajouter des mécanismes au fil de l'aventure. Mario peut prendre les objets, sauter, monter des cordes, échelles ou encore se mettre sur ses mains, ce qui lui permettra de se protéger des objets qui vont lui tomber sur la tête. Notre plombier dans les niveaux devra activer des interrupteurs, sauter sur des bumpers, éviter des pics, prendre des bumpers ou un méchant pour le mettre à un endroit précis, etc. Graphiquement, si vous êtes avec nous sur Twitch ou en replay sur YouTube, vous pouvez le voir, le jeu est très réussi. Le jeu est en 3D, mais se joue en 2D. Les couleurs sont vives, chatoyantes, les niveaux variés. On va aller dans la jungle, la montagne, le feu, etc. Bref, tout l'univers de Mario est bien là. Au final, c'est un bon remake. Après, attention, je pense qu'on l'apprécie plus à petite dose qu'à faire des sessions de 2-3 heures dessus. Il y a moyen que ce soit vite répétitif dû au fait que les niveaux sont toujours construits de la même manière. Je voulais terminer, je rajouterai que j'ai vu à droite à gauche que apparemment si on a fait l'épisode sur GBA, on n'allait pas découvrir de nouveautés dans ce jeu. Donc bon, pour ma part, j'ai pas été embêté avec ce problème puisque je n'ai pas fait le jeu à l'époque. Cher TMDJC, tu veux des questions ou tu veux
non,
dire quelque
chose? Non, en fait, je peux te dire moi que j'ai fait l'épisode d'origine et effectivement moi de ce que
tu
j'ai
l'as
fait.
Tu l'as touché pour... celui-là?
Oui, j'ai fait la démo. Clairement le jeu m'a pas déjà le jeu d'origine, je l'avais beaucoup fait dans les transports en commun. C'est un jeu qui
il s'y prête totalement. Des petites sessions de une demi-heure, trois quarts.
C'est ça. Voilà. Et en fait, déjà, c'est pas un jeu Mario qui, pourtant, c'est vraiment une licence que j'aime bien, mais qui m'avait retourné complètement de ouf. Et je m'étais dit, allez, quand même, je donne sa chance à la démo. Et effectivement, j'ai refait des trucs que j'avais déjà fait. Et je me suis dit, est-ce que je vais vraiment faire l'acquisition de ce jeu? Donc voilà, ce jeu ne m'a pas transcendé.
Moi, vu que j'avais pas fait l'épisode GBA à l'époque, voilà, personnellement, ça m'a pas choqué. Bah écoute, je pense qu'on se dirige gentiment sur la fin.
Oh non!
Il n'y a pas le choix. Il y a un moment donné, faut savoir dire stop. Il y a un moment donné, faut savoir dire au revoir. Je pense qu'on a éclaté le compteur du timer. Vous rappelle qu'il y a la fonction chapitre dans ce podcast. Aussi sur YouTube grâce à Thibaut. On te rappelle que maintenant, on est en direct sur Twitch, sur la chaîne Twitch Just For Game FR. On est aussi en direct, en replay, pardonnez-moi, je m'en mêle sur la chaîne YouTube de Maximum Entertainment France. Tous les liens sont dans le descriptif de l'émission, comme d'habitude. Bien sûr, ce n'est qu'un aperçu de tout ce que propose l'entreprise. On ne peut que vous conseiller d'aller sur leur site pour suivre toute leur aventure. www.justforgames.com/fr.
Voilà, merci d'avoir suivi Just for Games, le podcast. Vous pouvez les suivre également sur Twitter, Facebook, Instagram et d'ailleurs la plupart des réseaux sociaux. C'est maintenant maxent_fr, maxent_fr. Alors, vous pouvez également nous retrouver sur Twix, petite dédicace à SQPEH, et Facebook et sur la, pareil, la plupart des réseaux sociaux, à Terry_levelmax ou Terry Level Max, tout attaché en fonction du réseau en question. Et puis moi, bah, c'était MDJC avec sur Twix un petit underscore à la fin pour la petite fioriture.
Retrouvez cette émission sur toutes les applications podcast habituelles. On vous donne rendez-vous le 4 mai prochain à 15h sur la chaîne Twitch de Maximum Entertainment. Les gens, on fait des bisous au mois prochain. Ciao MDJC.
Ciao Terry, des bisous les gens.
Et à dans 15 jours pour l'interview intégrale de Florent Gorge sur les podcasts.